There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En Soum Soum avec Chris Denhart, toujours évidemment le seul, l'unique. Et on va voir aujourd'hui le combat qui arrive de ce week-end, à savoir Allen contre Qatar. Ouais, voilà, et ça risque d'être absolument magnifique techniquement et dans tous les sens et dans tous les domaines. Avant de commencer, il y avait une idée, parce qu'on était en train, juste avant que cet enregistrement commence, de reparler un petit peu de l'événement de ce week-end avec Chris, de vive voix, et on en est venu à une conclusion, une idée qui pourrait être mise en place, et je te propose d'en parler, Chris, parce qu'en vrai, j'étais carrément d'accord et ça pourrait être intéressant.
Ouais, donc on parlait évidemment de Yann contre O'Malley en disant que à chaud tout le monde donnait Piotr Yann gagnant, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, moi y compris, qui après le combat ont revu ça à froid, et quasi tous ceux qui l'ont fait nuancent les propos et aujourd'hui disent que le premier round est tellement serré qu'on peut pas parler de vol. Là on peut éventuellement parler de vol, c'est tous ceux qui nuancent le lendemain, dont moi, encore une fois, on est d'accord pour dire que le premier round est extrêmement serré, mais on continue à le donner à Piotr Yan. Et donc, le fait que la masse continue à le donner à Piotr Yan, on peut parler de vol, mais ce n'est pas du tout scandaleux, puisque ce premier round est extrêmement difficile à différencier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les juges, ils sont à un endroit de la cage, et pour peu que l'action, les meilleures actions de O'Malley, c'est devant eux, et les meilleures actions de Piotr Yan, c'est à l'opposé de la cage, ça, évidemment, ça change le jugement. Et donc voilà. Et sur les décisions partagées, le problème, c'est que tu te dis, voilà, il y a trois juges qui jugent ce combat-là. Pour peu qu'il y en ait un qui l'ait donné à Sean O'Malley, qui n'était pas dans les trois, et qu'un qui était sur le côté était sur le coin de la cage et l'aurait donné à Piotr Yan, ça change le vainqueur. Et en fait, sur les décisions partagées, le problème, c'est que c'est trop noir et blanc. On dit que celui qui gagne la décision partagée, il gagne le combat, et celui qui perd la décision partagée, il perd le combat. Alors, je comprends qu'il faut un vainqueur et un perdant, mais la réalité, c'est que dans une décision partagée, certains considèrent que Fighter A a gagné, d'autres considèrent que Fighter B a gagné. Donc, ce n'est pas du tout noir et blanc. Et donc, évidemment, c'est littéralement impossible de enfin, voilà, il y aura toujours des combats serrés, il y aura toujours des décisions de ce genre, mais tu minimises la probabilité si tu prends 5 juges plutôt que 3, parce que voilà, ça représente mieux la masse, disons. Tu auras plus de 5-0, de 4-1 qui sont plus disparates que voilà, des 2-1 en termes de juges. Et donc là, l'idée dont on parlait, qui était vachement intéressante, c'est de garder 3 juges côté cage et d'en rajouter 2 backstage sans son.
Avec les moniteurs et tout ça.
Voilà, c'est ça, avec les moniteurs. Et je pense que ça pourrait être une idée intéressante. Ça va jamais faire disparaître les controverses, mais ça devrait diminuer le nombre de controverses qu'on a par année.
Ouais. Et complètement. Enfin, vraiment, ce serait intéressant. Et c'est pas hors de pose des possibilités qu'il le fasse, puisque le sport et la manière dont il est fait est en perpétuelle évolution. Et de la même manière qu'ils ont amené la VAR au foot, qu'ils ont essayé des différentes choses avec différents arbitres près des cages, ou je crois un truc comme ça, ce serait pas déconnant. C'est possible. Et je pense que plus on a ce genre de décision et plus ça cause du remous dans la communauté MMA, plus peut-être qu'on a des chances effectivement d'essayer ça au moins. Et donc franchement, c'est intéressant. Peut-être d'abord sur les Contender Series et puis ensuite, on verra comment ils font. Mais ouais, ça pourrait être intéressant.
Moi, j'aime bien cette idée. Et alors, j'en parlais avec Brian Boulan, parce qu'on a beaucoup parlé de ce combat entre O'Malley et Piotr Yan. Moi, ce que je trouve dommage, et je me suis beaucoup exprimé dessus il y a un petit temps, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas accès aux juges. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'après les combats, les juges justifient leur scoring. Pas parce qu'après, on veut les blâmer ou quoi que ce soit, parce que ça nous permet à nous, les fans, aux coachs et aux combattants, d'apprendre le... Parce qu'il y a plein, il y a même Daniel Cormier, Michael Bisping, Dominic Cruz, de temps en temps, ils disent des conneries au micro. C'est des anciens champions de l'UFC, et tu vois qu'ils ne savent même pas comment scorer un combat eux-mêmes. C'est des anciens champions de l'UFC. Et je pense que donner une plateforme aux juges de s'exprimer sur les raisons de leur choix, ça permettrait à tout le monde d'être mieux éduqué sur quels sont les réels critères. Et là, sur ce combat-là, ce serait très intéressant d'avoir un genre de discussion entre les trois juges qui s'exprime sur pourquoi il y en a un qui a donné à Piotrowian et pourquoi les deux autres à Sean O'Malley. Vraiment pour que nous, on puisse apprendre les détails du scoring, parce que pour l'instant, ce qu'on a, c'est on a un document, les Unified Rules of MMA, qui date de 2017. Il met littéralement 15 minutes à lire, donc il y a pas mal de nuances, mais ça va pas extrêmement loin dans le détail. Ça nous permet d'avoir une compréhension globale de comment scorer un combat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les juges, eux, ils débriefent après un combat et ça leur fait évoluer leur façon de penser. Et ce serait bien d'être impliqué là-dedans. Moi, c'est avant d'avoir 5 juges, la première évolution que j'aimerais voir, c'est des juges qui s'expriment sur toutes les décisions partagées ou même les décisions unanimes. Ou par exemple, Dariush contre Gamrot, c'est unanime, mais il y a deux juges qui donnent 30-27 et un juge qui donne 29-28. Le premier round, ils sont pas d'accord. Et j'aimerais avoir cette discussion parce que au final, ça fait pas scandale parce que c'est quand même Dariush qui gagne. Mais le fait qu'il y ait des différences sur ce premier round, qui est aussi difficile à scorer, j'aimerais avoir cet échange entre les juges pour moi-même comprendre, voilà, les différents points de vue, ce qui a fait la différence, ce qui n'a pas fait la différence, parce que ça permettrait d'améliorer ma connaissance du MMA moi-même. Et je pense que les combattants et les coachs, ils doivent être demandeurs de ça, parce que dans tous les sports, tu connais les règles. Dans tous les sports, tu sais comment gagner. Et en fait, en MMA, tu sais comment gagner par KO, tu sais comment gagner par soumission, tu sais comment ça fonctionne pour les arrêts du médecin et tout ce qui s'ensuit. Mais gagner à la décision, tu sais grosso modo. Et ça, c'est le problème, tu devrais savoir précisément. Et donc voilà, une des façons d'y arriver, ce serait d'avoir des juges qui s'expriment.
Bah, absolument. Et d'autant plus que en très très rapide pour qu'on aille ensuite sur Alain Kattar, mais ce que et moi-même je ne le sais pas, mais parce que j'oublie en fait à chaque fois tellement c'est des critères qui sont particuliers dans un ordre particulier. Mais en fait, comme tu le dis, quand on juge un combat et la manière dont c'est noté, c'est pas juste une vision globale du nombre de takedowns, le machin. En fait, ils regardent d'abord certains critères. Si cela ne permet pas de départager, ensuite le contre-cage, ensuite machin. Et donc, en fait, même ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu du grand public et pourtant, c'est le cœur de la notation.
Eh ben, c'est tu m'envoies un tremplin là. J'aimerais faire une vidéo là-dessus.
Ah bah ouais, mais c'est
Je
vrai
ferais
que.
bien une vidéo où je rentre dans le détail de comment scorer un combat pour essayer d'avoir une meilleure compréhension générale du public, et ça permettra aussi d'avoir des meilleurs échanges par la suite, parce que malheureusement, voilà, j'ai échangé sur Twitter récemment par rapport à ce combat et tu sens qu'il y a un manque de connaissances. Pourtant, des règles qui sont connues au grand public, et ce serait bien que voilà, tous les fans comprennent les grandes lignes et qu'après on ait des débats intéressants justement sur le détail et les nuances des combats serrés.
Ouais, effectivement, ça ce serait bah, une vidéo qui serait un peu une vidéo pilier et qui serait vachement intéressante qu'on fasse effectivement. Eh ben, pour revenir aux affaires plus courantes et donc sur Allen Qatar, eh ben, on va commencer cette analyse. Bah, alors, maintenant qu'on a un peu notre best practice, je te propose qu'on commence par les deux combattants l'un après l'autre. Et puis ensuite, bah, moi, je me contenterai du coup de te lancer sur certains sujets et te poser les questions qui me brûlent. Eh ben, commençons.
Swear.
Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
Commençons par. Alors, je vais faire simplement pour servir à quelque chose dans cette vidéo. Une petite overview de Arnold Allen, puisqu'Arnold Allen, son dernier combat, il a impressionné par son côté tranchant et on ne le connaissait pas vraiment comme un finisseur. Et contre Dan Hooker, il a montré que maintenant, c'était peut-être plus la même chose du tout. Est-ce que c'est parce que Arnold Allen a passé une vitesse ou est-ce que c'était parce que Dan Hooker n'était pas dans les meilleures conditions, parce que c'est dans une nouvelle catégorie, on ne sait pas. Mais en tout cas, il était impressionnant, Arnold Allen, et ça, on ne peut pas lui enlever. Et donc, est-ce qu'il est rentré dans une nouvelle dimension? Bah, probablement que ce combat contre Calvin Kattar, qui est lui vraiment très très solidement ancré dans le top de cette catégorie, ça va nous permettre de le voir. Arnold Allen, qui est un peu un éternel prospect jusqu'à maintenant, parce que je me souviens quand il était venu, je crois que c'était Wreckage Warriors, il était extrêmement jeune quand il est arrivé à l'UFC, et il est allé à Tristar, il s'entraîne à Tristar avec évidemment Fyrazabi, donc on sait qu'il est extrêmement complet, mais. On ne l'avait jamais vraiment vu franchir ce pas, en fait, et devenir la star qu'il pouvait devenir parce qu'il en avait le potentiel. Est-ce que c'est maintenant, c'est là que ça va être très intéressant? Il a 28 ans, donc il est encore suffisamment jeune. Là, il est vraiment en plein, il est dans son prime physique. Et Calvin Kattar, à l'inverse, bon, bah, c'est un gars qui a affronté absolument tout le monde. Il a affronté Max Holloway. Bon, malheureusement, on se souvient que c'était une démonstration totale de Max. Il a affronté les meilleurs que la catégorie avait à offrir. Il vient là, il sort de
De
trois fights
Chemette.
of, ouais, de Josh Emmett, de trois combats de la soirée, dos à dos contre Holloway, Chikadze et Josh Emmett. Contre Chikadze, c'est lui qui avait fait une démonstration technique d'ailleurs. Donc voilà, on a à peu près ça comme dynamique pour Allen et pour Qatar. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite overview de l'un et de l'autre sur les compétences, les attributs? Et on est parti.
Alors, d'abord, le point commun entre les deux, il y a deux mots qui ressortent pour moi, c'est violence et compétence. Et c'est pour ça que ce combat est absolument incroyable pour les fans de MMA, parce on devrait avoir pas mal de violence, une belle guerre, mais ça va rester une guerre relativement, enfin même totalement technique en fait, parce que c'est pas des mecs qui vont être brouillons à un moment
Ouais.
du combat. Ils vont toujours être très propres techniquement, ils vont rarement surengager, ils vont rester intelligents dans leur approche. C'est pas mal parce que ton introduction, tu parles de Firas Zahabi, et moi, la première ligne que j'ai notée ici, j'ai toujours mes notes, hein, sur Allen, c'est que c'est un produit pur, Firas Zahabi. Même si, à la base, il s'entraînait en Angleterre sous la tutelle de Jack Mason, il est parti s'exporter chez Firas Zahabi, et ça se sent. Complet et cérébral, mais quand même présent dans les échanges, un peu comme Rory McDonald. Vraiment, à ce niveau-là, il y a pas mal de similitudes entre les deux. Et par rapport au fait que tu disais il n'est pas réputé pour être un finisher, même si, d'un point de vue opportuniste, il l'est. Hein, il a deux fronted logs, disons, contre le cours du combat. Hein, contre Mats Burnell, il était dominé, il sort le fronted lock. Contre Omar, il n'était pas très bien dans le fight, il le sort aussi, c'était à Berlin, ça. Et là, il finalise contre Dan Hooker. Et dans son pied-point, je ne vais pas le comparer d'un point de vue style, mais d'un point de vue puissant, je vais le comparer à Costa, le middleweight.
Oh, Paulo
Je
Costa,
reviens.
ouais.
Paulo Costa. Ça frappe sec, ça frappe fort, mais tu as l'impression qu'il n'y a pas ce one-punch knockout power. Et
Ouais.
d'ailleurs, on le voit, il finalise Hooker, mais le nombre de frappes qu'il a besoin de le mettre. Et c'est même pas un KO,
Ouais,
il force
ouais.
l'arbitre à s'interposer. Et pareil, Paulo Costa, tu sens qu'il frappe dur, tu sens qu'il frappe fort, mais il y a pas
Ouais.
ce snap, il y a pas ce
C'est
truc
pas
qui fait que
Ngannou,
le gars
ouais.
tombe.
Ouais.
Donc voilà. Mais il reste très technique. C'est quelqu'un qui, donc quand on faisait la preview de Sean O'Malley contre Piotr Jan, j'avais dit, on peut pas comparer Sean O'Malley et Cory Sandhagen sur leur déplacement. Sean O'Malley, c'est quelqu'un qui fait des entrées-sorties. Sandhagen, c'est quelqu'un qui se déplace latéralement. Et j'allais dire Brandon Allen, Arnold Allen, il mixe les deux. Il se déplace très bien sur des entrées-sorties pour gérer la distance et il se déplace très bien latéralement pour garder de l'espace derrière lui. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et alors, ce qui me marque le plus chez lui, c'est sa variété. Que ce soit défensivement, il va esquiver en bougeant la tête. Il va bloquer de temps en temps. Il va même utiliser la cross guard que j'apprécie énormément
Ça, c'est
personnellement.
pur Tristar, ça aussi d'ailleurs. Enfin, avec
Pur
Rory et
Tristar
tout ça,
aussi,
ouais.
ouais. Et je kiffe cette garde. Personnellement, je l'utilise aussi en sparring. Je l'adore. Et Max Holloway contre Dustin Poirier avait gêné vraiment
Ouais.
Max Holloway avec ça. Elle est bonne. Et ses déplacements, il les utilise de temps en temps. Et donc, c'est difficile de lire les réactions défensives de Arnold Allen parce qu'il les varie. Et donc, c'est difficile de trouver des ouvertures. Et ça, c'est intéressant dans ce combat face à Qatar qui a vraiment une très bonne lecture du jeu et qui utilise ses feintes pour créer des ouvertures. Pareil, offensivement, beaucoup d'anglaises, mais de temps en temps, il va mixer avec des low kicks, avec des high kicks. Il attaque beaucoup, beaucoup le corps. Et encore une fois, Tristar, son jab sous différents angles. Il va faire des up jabs, il va faire des jabs en ligne, il va les faire en rentrant vraiment bien. Enfin, c'est absolument spectaculaire. Alors, là où il y a un gros défaut chez lui, selon moi, c'est sa gestion d'énergie. Comme Paulo Costa, il frappe très fort tout le temps. En grappling, il est tout le temps en mode pression. C'est pas des transitions fluides. T'as l'impression qu'il grippe toujours. Donc, il utilise beaucoup d'énergie. Et quand il n'est pas en contrôle du combat, par exemple, contre Youssouf, contre Burnell, tu vois qu'il fatigue à un moment dans le troisième round. Quand il est en contrôle du combat, comme contre Melendez, tu vois que son cardio, il est présent. Donc, il a un bon cardio. Sa gestion d'énergie, quand il n'est pas en contrôle, c'est là où le bas blesse. Par contre, contre-argument, il est compétent dans la fatigue. Un peu comme Gregor Gillespie, même fatigué. Il reste présent, il reste lucide et il reste dangereux. On l'a déjà vu finaliser, même contre Meza. Pour moi, c'est un KO. C'est pas une décision. Il le met KO à la dernière seconde et finalement, bah, il obtient la décision. On le voit d'ailleurs râler. Donc voilà. Pour Allen, je pense que j'ai plutôt bien fait le tour
Ouais.
sur ce monologue-là.
Et pour Qatar, bah, on a donc quelqu'un. Maintenant, on sait à peu près ce qu'il apporte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aussi vraiment intelligent dans ce qu'il fait. Il construit son jeu au fur et à mesure des minutes. Il est très porté sur l'anglaise, mais pour autant, c'est pas quelqu'un, et on l'a vu contre Chikadze, c'était super intéressant, même si il utilise surtout ses points. Alors déjà, il peut aussi mettre des kicks, en particulier des low kicks, mais ça ne l'empêche pas d'être compétent contre des kickers. Et moi, c'est ça qui m'avait vraiment, j'avais kiffé son combat contre Chikadze, c'est que il avait vraiment mis en place des stratégies pour constamment couper et être le premier et réussir à casser la distance et à contrer le jeu en kick de Chikadze avec ses points et surtout grâce à ses déplacements. Donc c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il fait, qui sait ce qu'il fait et qui peut construire petit à petit. Au sol, alors moi j'ai pas beaucoup de souvenirs de son sol, je dois avouer, j'imagine qu'il est compétent, mais je n'y connais pas suffisamment. C'est jamais lui qui initie, en tout cas, les échanges en transition et en lutte et en grappling. Donc, et c'est quelqu'un qui, pareil, n'a pas forcément un one punch knockout, donc c'est pas quelqu'un qui va éteindre sur un coup, mais ça s'accumule. C'est de la guerre d'attrition, un petit peu d'ailleurs, comme Costa, ce qu'on vient de citer. Qu'est-ce que tu aurais à redire là-dessus?
Alors, je vais essayer d'être structuré parce que tu as dit pas mal de choses intéressantes sur lesquelles j'aimerais rebondir. Donc, effectivement, par rapport à la lutte, il a une base en lutte. Il a une très très bonne base en lutte. Il a été amené au sol que deux fois, une fois contre Fish Gold et la deuxième fois, je sais même plus contre qui, mais ça a jamais duré très longtemps. Donc, le temps au sol est très court et vu sa gestion de la distance, en fait, c'est difficile de shooter contre lui. Et quand tu shootes contre lui, il a vraiment un très très bon système défensif. Donc, à ce niveau-là, voilà, j'ai du mal à le voir se faire ramener au sol contre Allen, peut-être dans la fatigue, peut-être sur un low kick attrapé, mais une vraie amener au sol contre lui, ça va être très compliqué selon moi pour Allen parce qu'il y a des bons lutteurs qui ont essayé face à Qatar et ça n'a pas spécialement fonctionné. Par rapport au kick, quand il affronte des kickers, il est devenu bon contre les kickers parce que contre Moicano, il se fait rouler dessus,
C'était il y a
notamment
combien
à
de temps,
cause des low
Mogano?
kicks. Oh, c'était il y a un petit
Ok,
temps, c'était son
d'accord.
troisième combat à l'UFC ou quatrième
Ok,
combat à
ok, ok.
l'UFC. Il se fait rouler dessus, notamment à cause des low kicks. Mais forcément, il a un bon jab, il a une bonne anglaise. Quand tu es face à quelqu'un qui a une bonne anglaise, tu punis la jambe avant, c'est logique. Face à Magomed Sharipov,
Magomed
tu vois qu'il est mieux face à un kicker, mais il y a toujours des défauts. Il perd les deux premiers rounds et c'est dans le troisième qu'il revient parce que Zabit, son cardio est pas connu pour être excellent. Et face à Chikadze, là, son jeu s'est vraiment peaufiné face à un striker. C'est mettre de la pression, mettre de la pression, mettre de la pression. Et je pense que sa défaite contre Holloway lui a permis de faire confiance en son menton. Et du coup, il s'est dit, face à un kicker, je dois absolument mettre de la pression. Je vais prendre des coups. Je dois accepter de les prendre pour pouvoir remettre plus puissant ou plus en nombre derrière. Et donc son jeu s'est vraiment peaufiné grâce à toutes les guerres dans lesquelles il a été, dans la victoire comme dans la défaite, hein, dans la victoire, grosse guerre contre Burgos, et puis dans la
Ouais.
défaite, grosse guerre contre Holloway, contre Zabit, ça a aussi été une guerre. Donc c'est quelqu'un qui s'est peaufiné au plus haut niveau. Dès qu'il est arrivé à l'UFC, il a enchaîné que des gros noms. Je pense que Fish Gold est le seul nom qu'il a affronté qui est pas, on va
Ouais.
dire, oufissime. Ça reste un bon combattant, mais c'est pas du Dan Ige, c'est pas du
Non, c'est
Josh
vrai que
Emmett.
c'est monstrueux son résumé à l'UFC. Hein.
Que du gros
Putain.
niveau.
Ouais.
Là, il y a une différence entre Allen et lui, c'est l'expérience à haut niveau. Donc ici, pour résumer, bon, excellent jab, il construit très bien son jab derrière. Sa gestion de la distance, elle est oufissime. Il utilise très très bien les feintes et ça lui permet de créer des ouvertures. Là, feinte plus jab plus gestion de distance face à Ricardo Lamas, incroyable. Face à Jeremy Stephens, incroyable. Les finishes, les setups qui amènent au finish sont absolument merveilleux. Et puis, ouais, ces coups de coude, il faut pas oublier
Ouh là
qu'il n'hésite
là.
pas à les envoyer en contre, il n'hésite pas à venir casser ses distances pour les envoyer. Et alors, il est résistant, il est durable, il a un excellent cardio, il a un excellent menton et il a un excellent mental. Faire face à quelqu'un comme Qatar, ça veut dire être lucide du début à la fin, chaque demi-seconde. Il n'y a pas
Ouais.
d'hésitation là-dessus. Alors, son défaut, il repose trop sur son menton. Ça, on va pas se mentir, il aime les échanges, il sait qu'il s'est encaissé, mais on connaît tous les styles comme ça, Tony Ferguson, Chuck Liddell. À un moment de ta carrière, ça te lâche. Et à ce moment-là, ben, normalement, c'est la dégringolade. Donc, je pense qu'il est temps pour lui de commencer à construire un jeu qui repose pas trop autour de son menton, d'autant plus qu'il a les compétences techniques pour développer un jeu propre, en fait, plus propre, plus calculé, plus mesuré. Et puis, j'avais noté takedown defense de ouf, plus dur à contrôler au sol. Et puis, il y a une réelle progression dans sa violence, les coups de coude et les contres. Parce que la leçon qu'il a tirée face à Max Holloway, à la base, Qatar, c'est quelqu'un qui initie beaucoup. Holloway, c'est quelqu'un qui initie beaucoup. Ils savent tous les deux contrer, mais ce n'est pas leur stratégie de base. Et évidemment, bah, contre Max Holloway, c'est celui qui initiait le plus qui a gagné. Et là, c'est Holloway qui a mis le volume. Et la leçon qu'il a tirée, c'est qu'il doit être compétent en contre pour pouvoir contrer, dire à l'autre, OK, si tu engages, je suis présent dans le contre. Et puis, quand l'autre hésite à engager, bah, c'est...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est là où lui déroule son vrai jeu de gars qui engage beaucoup.
Et bah du coup, maintenant, la question, maintenant qu'on a fait le tour de l'un et de l'autre, comment est-ce que tu penses qu'ils matchent l'un contre l'autre ?
Pour les fans, très bien.
Ah mais ça c'est ça qui est bien. On y sera gagnant quoi qu'il arrive.
Ça devrait être une absolue merveille. Je pense que alors Arnold Allen accepte beaucoup plus facilement d'être sur son pied arrière et de travailler de l'extérieur. Une fois qu'il est à l'aise, c'est là où Allen commence à mettre la pression. Je pense que Qatar, c'est quelqu'un qui refuse d'être mis sous pression et pour contrebalancer ça, c'est lui qui avance systématiquement. Donc j'ai l'impression qu'on va commencer avec un Qatar qui est sur le pied avant, qui met la pression, et un Arnold Allen qui travaille de l'extérieur. Et Arnold Allen, dans son dernier combat contre Hooker, il combat vraiment avec de très bons déplacements et il punit chaque fois, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu peux te déplacer en réaction à ton adversaire, ou bien tu peux te déplacer pour faire réagir ton adversaire. Et face à Hooker, ce qu'il faisait de très bien, Allen, c'est lui qui se déplaçait de l'extérieur pour faire réagir Hooker sur les déplacements. Et dès qu'il y avait du poids sur la jambe avant de Hooker pour le suivre, c'est là où il envoyait un low kick en garde ouverte. Ici, on sera notamment aussi en garde ouverte majoritairement, puisque Allen, pur gaucher, Qatar, plus ou moins pur droitier, il switchait beaucoup contre Chikadze, mais très intelligent, pourrait toujours en garde fermée contre Chikadze pour éviter le middle à son corps. Quel mais bon ici, smart. Je pense que Qatar sera beaucoup plus en droitier, de peur de souffrir de sa jambe avant. Mais Arnold Allen, ses low kicks en garde ouverte, encore une fois, Firas Zahabi, ils sont merveilleux. Il a failli détruire la jambe avant de Melendez, qui pourtant est en droitier. Donc ça va être très intéressant. Ça va être de voir si c'est Qatar qui cadre Allen ou si c'est Allen qui se déplace pour faire en sorte que Qatar le suive et engager dessus. Et donc là, il y a un bon mix de choses. Et puis, on verra ce que ça va donner sur qui engage, qui ose contrer, qui trouve la meilleure lecture du jeu. Ce combat est extrêmement serré sur papier. C'est très difficile de voir ce que ça va donner. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que ça va être beau. Et en plus, ils acceptent tous les deux l'échange. Une des améliorations de Qatar dans son jeu aussi, c'est qu'il engage défensivement responsable, mais il reste dans la distance de contre ou d'échange. Et donc, il va engager, bloquer et passer derrière. Et Allen le fait très, très bien aussi. Il a notamment très bien fait contre Melendez, c'est engager avec deux coups, bloquer, et puis revenir avec des attaques au corps et ce genre de choses. Donc, il gagnait tous les échanges contre Melendez. C'est un masterclass absolument splendide à avoir. Donc, ouais, un combat, ça peut... Je le kiffe à mort, ce combat. Tout ce que je demande, c'est minimum 10 minutes de combat. Je veux pas que ça finisse dans les deux premiers rounds.
Et si ça se finissait, ce serait comment pour toi ?
Pour moi, si ça se finit, c'est plutôt Qatar sur un coup de coude, sur de la violence dans les coups de coude, sur une ouverture ou sur un TKO qui vient des coups de coude. Parce que Arnold Allen est aussi très, très durable, très résistant, bon menton. Allen, je le vois. Ça va être compliqué pour Allen de finaliser Qatar, parce qu'on a vu Qatar qui est extrêmement résistant. Même contre Chikadze, il prend des grosses frappes, des gros coups, des gros kicks. Contre Max Holloway, il prend du volume. Alors peut-être avec un arbitre un peu plus prudent, Rich Mitchell par exemple. Mais je pense pas que Rich Mitchell il soit arbitre aux US. Donc voilà, avec un arbitre plus prudent, peut-être Arnold Allen sur un TKO. Mais si un vrai finish. Je le vois plus du côté de Qatar, notamment avec la violence de ses coudes.
Et en termes de dynamique de carrière, là, t'aimerais voir lequel gagner dans le sens que tu veux, mais est-ce que pour toi, ça pourrait être là le moment parfait d'un passage de flambeau pour Allen et pour qu'il commence à se diriger vraiment vers la course au titre et qu'il enfin prenne son plein potentiel.
Ben là, oui, enfin, Arnold Allen, c'est 9-0 à l'UFC.
Ouais, c'est
Et
fou.
là, si il bat Qatar, il fera partie des rares combattants à avoir 10 victoires d'affilée à l'UFC et qui plus est, chez les featherweight. Et son parcours n'a pas été si simple que ça. Il y a eu des combats difficiles pour lui. Il y a eu des noms dans son ascension, notamment Hooker, Melendez. Alors oui, Melendez était sur le déclin, mais au moment où il l'a rencontré, je crois qu'il avait 24 ou 25 ans. C'était, voilà, c'est déjà un passage de flambeau à ce moment-là. Donc pour avoir des nouveaux noms dans le top de la division, je pense que ce serait intéressant d'avoir une victoire de Allen. Maintenant, moi, je suis un grand fan des deux, donc c'est typiquement le genre de combat où j'ai envie de voir. Enfin, j'ai pas envie qu'il y en ait un des deux qui perde. Le problème de Qatar, c'est que on sait que le mec a un niveau top 5. Et il va toujours avoir une victoire, une défaite, deux victoires, une défaite, parce qu'il prend que des gros noms. Et effectivement, s'il gagne, le problème de Qatar, c'est. Bah, il a déjà perdu contre tellement de monde que c'est difficile de se dire, OK, il va affronter Volkanovski. Alors, ici, j'ai un contre-argument parce qu'on parlait des décisions. J'ai regardé Qatar, Josh Emmett. Pour moi, c'est 48-47 pour Qatar. Le deuxième round, je le donne à Qatar. Le 1, le 3, clairement Emmett. Le 4, le 5, clairement Qatar. Le 2, pour moi, c'est Qatar. C'est serré, mais c'est Qatar. Donc voilà, s'il avait battu Emmett, c'est lui le challenger.
Et
C'est. Ouais.
c'est ça qui est un peu c'est ça qui est compliqué, mais c'est vrai que je te rejoins sur le côté plafond de Calvin Kattar, dans le sens on sait ce qu'il apporte et c'est monstrueux, mais on sait aussi que tant que des gars comme Holloway et Volkanovski seront là, il n'ira pas beaucoup plus loin. Et contre les mecs qui sont 3, 4, 5, ce sera toujours serré. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il a un niveau qui est constant depuis des années et au plus haut niveau. Donc c'est monstrueux de la part de Kattar, mais il y a ce côté un peu éternel, un poil en dessous de ce qui se fait de Golden Standard.
C'est ça, en fait, ce qui lui a manqué, c'est une victoire vraiment convaincante contre Dan Ige. Il l'a pas eu. Il a été convaincu contre Chikadze en retour de sa défaite impressionnante contre Holloway. Et puis là, il manquait aussi un peu d'être convaincant contre Josh Emmett. Extraordinaire performance, encore une fois, pour moi, il gagne, mais il manque ce gros statement. Et là, pour le remettre dans les discussions pour le titre, il doit rouler sur Allen. Et il doit rouler sur le prochain, peut-être Yair Rodriguez. D'ailleurs, ce serait très bien parce que ça confirmerait le fait que face à des kickers, il est présent. Donc, s'il bat Chikadze, puis Allen en anglaise, enfin, qui est plus après dominance anglaise, puis Yair Rodriguez, là, il a clairement un gros argument pour son title shot, en sachant que voilà, le Josh Emmett, encore une fois, c'est une décision partagée. Donc, c'est pas noir ou blanc. Certains l'ont vu gagner. Donc, comme je te disais avant le podcast, les victoires partagées, pour moi, ça se rapproche plus d'une égalité que d'une victoire claire pour l'un ou pour l'autre, surtout dans le cas où clairement c'est deux rounds de part et d'autre et un troisième round qui fait controverse.
Et puis c'est vrai que pour de l'autre côté, pour côté Allen, lui, comme on ne sait pas encore jusqu'où il peut aller et qu'on a l'impression qu'il y a encore pas mal d'endroits dans lesquels c'est pas une zone d'ombre, dans le sens, parce que c'est pas péjorativement que je le dis, mais on ne sait pas jusqu'où il peut arriver. Et c'est pour ça que personnellement, je pense que pour la catégorie, ce serait probablement mieux si on avait une belle démonstration de Allen.
Ouais, surtout si ça dure 5 rounds. Parce
Voilà,
que
s'il
Allen,
prouve.
on l'a pas vu sur 5 rounds. Il s'est pas encore prouvé dessus. Et donc, on a besoin d'avoir cette information. Cette 10e victoire d'affilée, s'il l'obtient, évidemment, je préfère qu'il l'obtienne fin de 3e ou début 4-5, où on se dit, bon, bah, il a finalisé fin de 3e, ça veut dire qu'il avait encore de l'énergie pour 4-5. J'ai besoin d'avoir cette information de son côté. Donc, c'est très, il mérite ce main event et il mérite cet adversaire. Et là, clairement, à un moment, tu peux plus. Voilà, 10 victoires d'affilée. Le grand maximum, c'est 11 victoires. N'importe qui a 11 victoires d'affilée à l'UFC doit avoir un title shot. Donc là, une victoire contre Qatar, c'est soit title shot, soit il en reste qu'une. C'est impossible autrement.
Non, c'est clair. On rappelle que par exemple en lightweight, c'est pas les mêmes divisions, mais en lightweight, je crois que les records de séries d'affilée, t'as Khabib qui est à 12, Tony Ferguson qui est à 12, et après je crois que t'as 11 Oliveira et maintenant 10
Oliveira.
Makhachev. Donc
11 Makhachev, puisqu'il vient de gagner. Il était à 10. C'était
il
le
était pas
pro.
à 9?
Ah non, il était à 9 en lightweight, mais il y avait son catchweight contre Bobby Green, en fait.
Ah oui,
Il est à
ok.
10 victoires d'affilée à l'UFC, mais tu enlèves un parce que techniquement,
Ok.
contre Bobby Green, c'était un catchweight, donc c'est pas considéré comme du lightweight.
J'avais oublié, ok.
Mais
Mais
c'est
c'est
vrai
vrai
que.
que, voilà, pour vous dire à quel point, quoi.
Ouais, et historiquement, le combat qu'on vient d'avoir, c'est la première fois à l'UFC où tu
Ouais.
avais deux combattants avec plus de 10 victoires ou plus d'affilée qui se rencontraient.
Ouais,
C'est
à
une
l'UFC. Ah ouais,
petite.
non.
Ouais, à l'UFC, c'était une stat assez intéressante.
Non, c'est clair. Et du coup, c'est pour ça que bah, là, Allen, ça rend les choses intéressantes aussi. C'est qu'il arrive dans ce terrain qui est un terrain, enfin, ce nombre de victoires d'affilée, là, normalement, ça correspond à, ouais, c'est ça, un Ousmane, un Khabib. Enfin, c'est, certes, il a pris plus de temps parce que, bah, voilà, comme il n'avait pas de décision tranchante, qu'il n'avait pas de KO, de soumission, bah, du coup, l'UFC te met un petit peu plus lentement
Ouais.
là, dans la course. Mais voilà, c'est vrai que voilà, ça va être très très intéressant pour Allen. Et la raison pour laquelle je suis absolument d'accord avec toi sur le fait qu'il faut vraiment, ce serait bien qu'il prouve ce qu'il peut faire les 5 rounds, c'est parce que si jamais il doit affronter des Max Holloway ou des Volkanovski, c'est quasiment sûr que ça va arriver sur les 5 rounds. Et dans les 5 rounds, les mecs sont des tueurs à gages,
Ouais.
autant dans le quatrième, cinquième que dans le premier. Et donc si t'es pas
Exact.
prêt, t'es mort.
Et Qatar est une très belle préparation, puisque Qatar fait partie de ces
Toujours
gars-là
ça.
qui est totalement volumineux dans le cinquième round et qui a cette intensité, ce cardio pour tenir un combat intense sur la durée et qui garde un peu cette dangerosité dans le quatrième et le cinquième, puisqu'on clairement Qatar était pas loin de finaliser Chikadze dans le quatrième, dans le cinquième. Enfin,
Ouais.
on le sentait capable de le faire. Donc c'est un très bon test et ouais, il reste plus que les game plans à discuter et on est bon.
À peaufiner. Et alors, du coup, côté game plan, what you got?
Alors, pour Qatar, j'ai mis patience mesurée. Comme je viens de dire, Allen, j'ai un petit doute sur sa gestion d'énergie. Je crois qu'il est très dangereux dans le début de combat. Il reste compétent dans la fatigue, il reste opportuniste dans la fatigue, mais évidemment, son degré de dangerosité drop avec le temps. Et donc, quand je dis patience mesurée, c'est pas temporiser au début, c'est forcer le combat à Allen, mais en ayant une responsabilité défensive pour que Allen se dépense et que voilà, les jauges d'énergie commencent à avoir une grosse différence. Et puis, enfin, imposer un jeu un peu crescendo. Qatar, il sait monter l'intensité. Je pense que c'est dans son intérêt, voilà, de mettre une certaine intensité au début pour fatiguer Allen, mais de vraiment mettre le pied sur l'accélérateur à partir du troisième round pour s'assurer aussi une victoire si ça va à la décision. Je peux très bien le voir accepter de perdre 1, 2 et voilà, de s'assurer le 3, 4, 5. Parce qu'on a vu un Qatar qui est très compétent, 4, 5, notamment contre Emmett. 3-4-5, ultra compétent contre Chikadze. Donc, le côté crescendo est important. Et alors, ici, je fais la transition parce que cet aspect-là est important chez les deux, les low kicks. Ils sont
Ouais.
tous les deux ultra sujets aux low kicks, donc ça doit faire partie des game plans de part et d'autre. Du côté de Allen, rester fidèle à lui-même, bien varier les défenses pour pas que Qatar ait de bonnes lectures sur les ouvertures qu'il pourrait laisser, et bien varier les attaques, parce que Qatar contre Burgos, par exemple, on voit qu'il est ultra sujet au low kick et au coup au corps, et Allen, il envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de body shots, que ce soit en anglaise ou avec ses kicks, donc il doit bien, voilà, il doit bien mixer ça, mixer les niveaux, mixer les attaques, mixer anglaise et kick, mixer les angles, tout ce qui s'ensuit. Il doit pas succomber à la pression, donc favoriser le mouvement de temps en temps plutôt que l'action. Et alors essayer d'engager un maximum en faisant gaffe à son énergie. Parce que si quelqu'un a prouvé quelque chose contre Qatar, c'est que Qatar aime pas trop quelqu'un qui engage beaucoup contre lui. Et d'ailleurs, Qatar, voilà, contre Jeremy Stephens, contre Ricardo Lamas, il encaisse plus que ce qu'il donne.
Ouais.
Donc, je ne vais pas dire que c'est à l'encontre du combat, c'est juste que il reste présent, il reste dangereux et donc il trouve son ouverture. Mais si ça va à la décision, mais contre Lamas et contre Jeremy Stephens, c'était pas des combats qui étaient clairement à son avantage jusqu'au finish. Et donc, je pense que Allen, à un moment, surtout au début du combat, il doit chercher à engager. Il doit chercher à engager en faisant évidemment fort gaffe au contre. Mais là où Qatar est peut-être le moins dangereux, c'est quand il doit entrer, c'est pas quand il a l'occasion d'engager.
Et bah voilà pour les game plans et j'en profite en une seule respiration. Mais il y a aussi quelque chose comme tu reparles des jabs et je sais pas pourquoi j'y pense maintenant. Enfin, c'est vrai que voilà, t'as vraiment souligné à quel point la gestion des distances de Calvin Kattar était sublime. Et une des choses à laquelle vous pouvez le voir aussi, c'est là lorsqu'il met ses jabs, il arrive à snapper le jab au parfait moment et à la parfaite distance. Pile au moment où le bras vient de se tendre, en gros, juste boum, avant qu'il se tende, il touche. Et c'est vraiment un des rares et un des seuls à avoir cette, cette manière de toucher à la fin de ses coups quand ils sont en direct, qui sont mais magnifiques. Là, tu me dis si je me trompe, parce que toi, tu as un autre exemple de gars qui le fait aussi bien.
Je pourrais trouver, mais il faut que je
Ouais,
réfléchisse. Et,
pas,
ça,
pas...
ça laisserait un temps, un blanc pendant le podcast. Donc, comme ça, je trouve pas immédiatement. Je pense que Nassourdine Nimavov est en bonne voie pour
Oh,
faire partie de
ouais.
cette catégorie. Il y en a certainement. Bah, Cory Sandhagen, en fait, pourrait
Ouais.
aussi rentrer dans cette catégorie. Il arrive vraiment à gérer son. En fait, ce sont ceux qui arrivent à bien gérer leur allonge de manière générale. Et Cory Sandhagen en fait partie. Et. Là, j'ai pas. Je sais que c'est un combat en garde ouverte, mais j'ai pas été ultra attentif à ça. Mais Allen a un très très bon jab en garde ouverte,
Ce qui est
puisqu'il est
rare
souvent en
d'ailleurs.
garde ouverte parce qu'il est
Ouais.
gaucher, ce qui est rare. Qatar, j'aurais dû être plus attentif à ça dans mes analyses, mais j'ai l'impression qu'il fait aussi partie de ces gars qui est capable d'envoyer son jab correctement en garde ouverte. Et comme tu le dis, c'est rare. Le premier à l'UFC qui savait bien le faire pour moi, c'est Chris Weidman aussi gaucher. Et alors, bon, évidemment, on est un podcast français, donc on va toujours un peu vanter les mérites des Français. Cyril Gane fait partie de cette catégorie
Ouais.
qui est excellent avec ses jabs en garde ouverte.
Ouais. Et la raison pour laquelle généralement on dit que c'est plus compliqué de jabber en garde ouverte, c'est parce qu'en fait, comme vous êtes en garde opposée, en gros, il y a ce qu'on appelle des combats d'épée, en fait. C'est-à-dire que vos deux mains se gênent l'une l'autre parce qu'elles sont au même endroit et au même niveau. Et donc, ça devient vraiment une espèce de guerre tactique pour réussir à. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en garde ouverte, par exemple, des gars comme Robbie Lawler étaient excellents pour les bras arrière, c'est parce que c'est l'arme anti-garde ouverte normalement. Donc les deux ont les mêmes armes, hein, théoriquement, mais ceux qui savent le mettre au bon endroit, au bon moment et en se créer les opportunités avec des déplacements, bah, c'est là où effectivement ils peuvent passer outre cette difficulté.
Et alors, quand tu parlais de Qatar qui touche à bout portant, pas à bout portant, mais vraiment avec la précision de son bras tendu, comment ne pas parler de Conor McGregor?
Ouais, oui, c'est vrai, c'est
C'est
vrai.
l'exemple type. C'est l'exemple type de la
Ouais.
précision dans. Comment on appellerait ça? C'est un terme difficile à exprimer. C'est la précision de la enfin, du coup à
Ouais.
distance, quoi. C'est
Ouais.
savoir de combien de centimètres avancer pour pouvoir avoir le bras tendu qui touche suffisamment fort et puis sortir pour pas trop s'exposer. Et finalement, Robert Whittaker, un peu dans cette catégorie-là, avec une approche différente, plus une approche escrime, hein, enfin,
Ouais.
entrée, sortie, mais il a une énorme précision dans ses déplacements pour pouvoir toucher, surprendre l'adversaire et sortir avant que le contre arrive. Donc voilà, là, je pense qu'on a une liste intéressante de combattants
Voilà, je crois qu'on est pas mal
qui
là.
fait partie des gens qui ont cette compétence.
Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on est bon. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Je crois que non. On a
Les
même parlé
pronos.
de. Ah oui, purée, oh là là, c'est pour ça que Guillaume est si fort. Les pronos, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? What you got? Qu'est-ce que t'as dans le ventre, Chris?
Alors, encore une fois, c'est le genre de combat où avant le podcast, j'avais pas mon idée définie. Je suis quasi certain qu'on va avoir un 48-47.
Ouais, quelque chose de vraiment serré, ouais.
Et alors, pour qui Je n'aime pas parce que la dernière fois j'avais dit que Hooker allait battre Allen et je m'en veux à chaque fois quand je sous-estime quelqu'un. Mais ici, Qatar est sur une vraie belle progression. Chaque fois qu'il sort d'une défaite, on voit un nouveau visage de lui. Et là, je pense clairement que il risque de perdre les deux premiers. Ça va beaucoup jouer sur ce qu'il se passe dans le troisième. Mais j'ai l'impression que Qatar commencera à prendre l'ascendant dans le troisième et donc je vais mettre Qatar à la décision.
Qatar décision pour Chris. Ben, je personnellement, je vais me dire que je vais aller du côté de la destinée et je vais me dire, Allen, ça doit être son combat où vraiment il passe à la vitesse supérieure, où il brille puisque c'est le combat le plus compliqué de sa vie. Et je vais mettre Allen en, je vais mettre Allen à la décision. Pareil, ouais, je vois pas de finish non plus.
Ouais, ce combat est vraiment serré sur papier. Alors, il
Ouais.
peut y avoir une méga domination de l'un comme de l'autre, et c'est ça qu'il y a d'ennuyeux en MMA. C'est tu fais ton prono, et puis les gens ils viennent après le combat, c'est facile. Ah hein. Oh, oui, j'avais dit.
Ouais,
Mais en
c'était
fait,
évident.
t'avais dit un côté, mais l'autre combat, t'avais pronostiqué complètement l'inverse. La réalité
Ouais.
du MMA, et on l'a vu pour TJ contre Aljamain, c'est T'as aussi des petites blessures dont on n'est pas au courant et le gars il va peut-être pas le dire après. Alors dit le show, il a bien insisté dessus, mais il y a des mecs, ils arrivent avec des blessures et ils le disent à personne, ou alors ils ont mal dormi la veille, ils ont été malades juste avant. Donc il y a des petits éléments comme ça. Mais ici j'ai l'impression que c'est vraiment très serré sur papier et que ça va être une vraie guerre où il y aura un moment pour l'un, un moment pour l'autre, et de temps en temps un combat ça change sur un knockdown et puis toute la tournure de la suite change. Donc il y a beaucoup de scénarios possibles. Donc ici tu peux pas être sûr de ton prono, tout simplement.
Voilà, donc une seule certitude, c'est qu'on n'en a pas.
C'est ça.
Bah Chris, merci pour tout. Et puis bah on se retrouve très vite pour un prochain en Soum Soum. Merci à tous d'avoir suivi. Toujours sponsorisé par My Protein, My Sweet Protein. Je crois que c'est moins 38% avec le code de la sueur, as usual. Et puis bah voilà, prenez soin de vous, à la prochaine. Et puis Chris, see you. Hein.
À bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.